Yonah réunit les quatre policiers autour de lui. Sans trop faire monter la tension, il décrit la gravité de la situation et donne des instructions sur l'emploi des armes à feu, rappelant qu'un tireur doit en toutes circonstances viser les jambes. Évitant le jargon tactique des opérations spéciales, il explique que, selon toute vraisemblance, ils vont tomber sur quelqu'un de tout à fait inoffensif.
« Je vous exhorte tous à la vigilance pour ne pas effrayer la fille, » dit Yonah. « Il se peut qu'elle ait peur, qu'elle soit blessée, mais gardez bien à l'esprit qu'il peut s'agir d'un individu dangereux. »
Il envoie une patrouille de trois policiers de l'autre côté de la maison, leur demande de ne pas pénétrer dans le jardin, de se tenir à l'écart et de s'approcher de l'arrière de la maison en maintenant une distance de sécurité. Il commence à descendre le chemin forestier. L'un d'eux s'arrête et se fourre du tabac à chiquer sous la lèvre. La façade chocolat foncé de la maison est faite de lambris horizontaux superposés. Les encadrements sont blancs, la porte noire. Des rideaux roses couvrent les fenêtres. Aucune fumée ne sort de la cheminée. Dans l'escalier de l'entrée, il y a un balai et un seau en plastique jaune contenant des pommes de pin sèches. Yonah voit la patrouille, l'arme au poing, contourner la maison à bonne distance. Une branche craque. Au loin, il entend les échos rapprochés du martèlement d'un pic. Yonah suit du regard le déplacement des policiers tout en s'approchant de la maison d'un pas lent. Il tente de voir quelque chose à travers le tissu rose des rideaux. Il fait signe à l'agent de police, Christina Anderson, une jeune femme au visage pointu, de rester dans l'allée. Elle a les joues rouges et opine sans quitter la maison des yeux. Avec sang-froid, elle sort son arme de service et fait quelques pas de côté. La maison est vide, pense Yonah en s'approchant du perron. Les planches grincent légèrement sous son poids. Il garde un œil sur les rideaux pour détecter des mouvements d'air soudains et frappe à la porte. Il ne se passe rien. Il attend un moment, puis se fige, pense avoir entendu un bruit et sonde du regard à la forêt alentour, au-delà des broussailles et des troncs. Il sort son pistolet, un lourd Smith & Wesson, qu'il préfère à son arme de service, un Sig Sauer. Il baisse le chien et contrôle la cartouche dans la chambre. Soudain, un bruissement se fait entendre à la lisière de la forêt. Un chevreuil se glisse entre les arbres avec des mouvements brusques et rapides. Christina Anderson répond à son regard par un sourire tendu. Il désigne la fenêtre, approche avec précaution et regarde à l'intérieur du chalet par l'interstice des rideaux. Dans la pénombre, il distingue une table en rotin coiffée d'une plaque de verre éraflée et un canapé en velours beige. Deux culottes en coton sèchent sur le dos d'une chaise rouge à barreaux. Dans la kitchenette, il voit plusieurs paquets de macaronis cuisson rapide, du pesto en pot, des conserves et une caisse de pommes. Quelques couverts brillent à terre, devant l'évier et sous la table de la cuisine. Yonah retourne sur le perron, fait signe à Christina Anderson qu'il s'apprête à entrer, puis ouvre la porte et sort de la ligne de tir. Il attend le feu vert de Christina Anderson, puis regarde à l'intérieur et franchit le seuil. Assis dans la voiture, Eric devine à peine ce qui se passe au loin. Il voit Yonah Lina disparaître à l'intérieur de la maison, suivi d'un autre policier. Peu après, il est de retour sur le perron. Trois policiers arrivent de derrière la maison et s'arrêtent devant lui. Ils discutent, regardent un plan, pointent le doigt en direction de la route et des autres chalets. Yonah semble vouloir leur montrer quelque chose dans la maison. Tout le monde le suit et le dernier referme la porte derrière lui pour ne pas laisser échapper la chaleur. Soudain, Eric voit quelqu'un entre les arbres, là où le sol commence à s'incliner vers la tourbière. C'est une femme mince, avec un fusil dans la main, un fusil de chasse. Le double canon luisant traîne à terre, tandis qu'elle se dirige vers la maison. Eric le voit qui rebondit mollement sur les buissons de myrtille et la mousse. Les policiers n'ont pas vu la femme, et elle n'a pas pu les voir. Eric compose le numéro du portable de Yonah. Le téléphone se met à sonner dans la voiture, sur le siège conducteur à côté de lui. Sans hâte, la femme marche entre les arbres, tenant le fusil d'une main lâche. Eric comprend que la situation risque de devenir dangereuse si les policiers et la femme se surprennent. Il sort de la voiture, court jusqu'à l'allée, puis marche lentement. «
Bonjour !» lance-t-il.
La femme s'arrête et tourne la tête vers lui.
« Plutôt frais aujourd'hui, » dit-il d'une voix basse.
« Quoi ?»«
Il fait froid à l'ombre, » répète-t-il plus fort.
« Oui. »«
Vous êtes nouvelle ici ?» demande-t-il en s'approchant d'elle.
« Non, j'emprunte la maison de ma tante. »
« Sonia est votre tante ?»«
Oui, »
dit-elle en souriant. Eric arrive à son niveau.
« Qu'est-ce que vous chassez ?»«
Le lièvre. »«
Je peux regarder le fusil ?»
Elle le plie et le lui donne. Le bout de son nez est rouge. Des aiguilles de pin sèche sont accrochées dans ses cheveux sable.
« Evelyne, » dit-il calmement, « il y a des policiers ici qui voudraient vous parler. »
Elle a l'air inquiète. Recule d'un pas.
Si vous avez un moment, dit-il en souriant.
Elle hoche imperceptiblement la tête. Eric lance un cri en direction de la maison. Yona sort avec un air énervé, prêt à lui ordonner de retourner à la voiture. En apercevant la femme, il se fige en une fraction de seconde.
Voici Evelyne, dit Eric en lui donnant le fusil.
Bonjour,
dit Yona.
Son visage devient blême. Elle semble sur le point de s'évanouir.
« J'ai besoin de vous parler, »
explique Yona d'une voix grave.
« Non, »
chuchote-t-elle.
« Entrez dans la maison. »« Je ne veux pas. »«
Vous ne voulez pas entrer ?»
Evelyne se tourne vers Eric.
« Est-ce que je suis obligée ?»
demande-t-elle la bouche tremblante.
« Non, » répond-il. « C'est à vous de décider. »«
Suivez-moi, s'il vous plaît, »
dit Yona.
Elle secoue la tête, mais le suit pourtant à l'intérieur de la maison.
« J'attends dehors, » dit Eric.
Il remonte un peu l'allée. Le gravier est couvert d'aiguilles et de pommes de pin brunes. Il entend Evelyne crier à travers les murs de la maison. Un seul cri, sauvage et désespéré. L'expression d'une perte inconcevable. Il ne reconnaît que trop bien le cri de son séjour en Ouganda. Evelyne est assise dans le canapé en velours, les deux mains serrées entre les cuisses, le visage livide. On lui a appris ce qui est arrivé à sa famille. La photographie dans le cadre en forme d'amanite gît à terre. Le père et la mère sont assis dans une sorte de balancelle, la petite sœur entre eux. Les parents plissent les yeux sous l'éclat du soleil. Les lunettes noires de la petite sœur renvoient une lumière blanche.
« Toutes mes condoléances, »
dit Yona à voix basse.
Le menton d'Evelyne tremble.
« Pensez-vous pouvoir nous aider à comprendre ce qui s'est passé ?» demande-t-il.
La chaise grince sous le poids de Yona. Il attend un moment avant de poursuivre.
« Où étiez-vous le lundi 7 décembre ?»
Elle secoue la tête.
« Hier, » précise-t-il.
« J'étais ici, »
dit-elle d'une voix faible.
« Au chalet ?»
Elle rencontre son regard.
Oui.
Vous n'êtes pas sorti de la journée ?
Non.
Vous êtes resté assise ici ?
Elle fait un geste en direction du lit et des manuels de sciences politiques.
Vous étudiez ?
Oui.
Donc vous n'avez pas quitté la maison hier ?
Non.
Quelqu'un pourra le confirmer ?
Quoi ?
Y avait-il quelqu'un avec vous ici ? Demande Yona.
Non.
« Avez-vous une idée de la personne qui aurait pu faire ça à votre famille ?»
Elle secoue la tête.
« Est-ce que quelqu'un vous a menacé ?»
Elle ne semble pas entendre.
« Evelyne ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»
Ses doigts sont fermement coincés entre ses jambes.
« Est-ce que quelqu'un a menacé votre famille ? Est-ce que vous avez des ennemis ?»
« Non. »
« Saviez-vous que votre père avait de lourdes dettes ?»
Elle secoue la tête.
« C'était le cas, »
dit Yona.
« Votre père empruntait de l'argent à des criminels. »«
Je vois. »
« L'un d'eux aurait-il pu... »«
Non. »
« Pourquoi pas ?»«
Vous ne comprenez rien, »
dit-elle en haussant le ton.
« Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ?»«
Vous ne comprenez rien. » »«
Racontez-nous ce qui... »«
C'est impossible !»
crie-t-elle. Elle est tellement bouleversée qu'elle se met à pleurer à chaudes larmes, le visage décomposé. Christina Anderson s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Au bout d'un moment, elle redevient plus calme. Elle reste immobile dans les bras de la policière. De temps à autre, son corps est parcouru de sanglots.
« Là,
Là, chuchote Christina Anderson pour la réconforter. Elle serre la fille contre elle et lui caresse les cheveux.
Tout à coup, Christina lâche un cri et jette Evelyne au sol. Putain, elle m'a mordu! Elle m'a mordu, nom de Dieu!
Stupéfaite, elle regarde ses doigts ensanglantés. Le sang coule d'une morsure au cou.
Evelyne est assise par terre, dissimulant un étrange sourire derrière sa main. Ses yeux roulent en arrière, puis elle s'effondre, inconsciente.